Bonsoir, Fillon-Juppé face à face, c'est donc l'affiche surprise du second tour de la primaire de la droite et du centre dimanche prochain. On va pas revenir sur les raisons qui ont propulsé donc au premier rang l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs depuis hier soir reçoit énormément de ralliements. Alain Juppé, lui, il promet un combat projet contre projet. Le maire de Bordeaux qui va s'atteler à démonter la crédibilité du programme économique de son adversaire. Et au fait, est-ce qu'ils ont vraiment deux visions différentes de l'économie ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et avec l'économiste Marc de Citivaux, le fondateur des Cahiers Verts de l'économie. Avec nous également le chef d'entreprise Arnaud Vessier, à la tête d'International SOS. Soutien proche de François Fillon. Emmanuel Le Chypre est avec nous, éditorialiste économique à BFM Business. Bruno Jambard, directeur général adjoint de l'Institut de sondage et d'opinion OpinionWay. Et puis, j'allais dire, dans le camp d'en face, oui, est-ce qu'il faudra vraiment les opposer l'un et l'autre? On verra bien. Xavier Fontanet, ancien patron des Sylors, professeur à HEC, qui lui soutient Alain Juppé et qui vous propose d'ailleurs son dernier opus. Que chacun s'y mette. Voilà, justement, que faire pour que notre pays devienne attractif et stimulant? Peut-être que la réponse est dans la main des candidats à la présidentielle, quel qu'il soit. Emmanuel Le Chypre, quand même, c'est la semaine dernière, Alain Juppé qui avait attaqué le programme économique de Fillon, notamment son objectif de supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Voilà, donc, le programme le moins crédible. Voilà ce que disait Juppé. Malgré tout, est-ce qu'on n'a pas quand même beaucoup de points communs entre l'un et l'autre, la fin des 35 heures, les allocations chômage dégressives, la suppression de l'ISF, de redonner de la liberté aux entreprises, des allègements de fiscalité, le relèvement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. J'ai l'impression quand même qu'il y a un socle commun assez fort, non ?
Oui, bien sûr, il y a un tronc commun. Après tout, c'est quand même la même famille politique. Donc, par rapport aux difficultés de l'économie française, il y a un diagnostic partagé sur l'excès et l'inefficacité de la sphère publique. Donc il faut réduire les dépenses et il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Il y a un diagnostic partagé sur les défaillance de notre système fiscal, avec une fiscalité qui est beaucoup trop fondée sur le travail et le capital productif et qui les pénalise. Et puis troisième grand problème, c'est la rigidité de notre marché du travail. Donc tous les deux proposent effectivement des mesures en ce sens, mais il y a quand même une différence de philosophique quand même entre les deux, c'est qu'on voit bien que la vision de l'État dans chacun des deux programmes n'est pas du tout la même. Enfin, à mon sens, n'est pas la même. Vous avez François Fillon,
prenons un exemple,
qui est vraiment dans un état d'esprit dans lequel, grosso modo, le modèle français est aujourd'hui à bout de souffle. Que l'État est omniprésent, qu'il faut réduire ses champs d'intervention et que le privé doit prendre le relais sur tout un tas d'activités. Alors que chez Alain Juppé, davantage dans la tradition française, vous avez cette idée que c'est pas le modèle français, la philosophie du modèle français qui est en question, c'est que ce modèle français, il fonctionne mal, qu'il est mal géré, qu'il gaspille, et qu'il faut, et en gros qu'il faut le réparer, voilà. et non pas qu'il faut le changer. Et je pense que là, il y a une différence quand même un peu philosophique entre les deux.
Ouais, Marc de Citivaux, comment on les qualifie donc ces deux programmes? C'est quoi leur maître mot, vous l'observateur, puis après on donnera la parole aux acteurs, en tout cas.
Écoutez, je crois que notre ami Le Chypre a fait tourner un modèle macroéconomique.
Je sais que l'IFRA
a fait tourner un dont j'ai les résultats sous les yeux, mais nous en avions discuté ensemble, les résultats sont pas profondément différents. Or, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, alors d'abord, bonne nouvelle. Quand ils ont fait tourner les modèles, les deux meilleurs programmes étaient ceux de Fillon et de Juppé. Bon, donc, bonne nouvelle, on a déjà les deux meilleurs. Deuxièmement, aux résultats, disons, Fillon l'emporterait d'une très courte tête sur les résultats, mais ils sont très similaires, très similaires. Et donc,
ne crions pas les états, on va quand même avant expliquer ce qu'il y a dans ces programmes, avant qu'on voit justement.
Non, oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, honnêtement, vous allez avoir une semaine entière sur les 500 000 ou 300 000 fonctionnaires. Ce n'est pas vrai que ça change profondément les choses.
Ça change, Marc, parce que l'idée, c'est la faisabilité.
Marc, puisque je vais essayer de rappeler au fur et à mesure quelques-unes des mesures. En effet, François Fillon, on veut réduire le nombre de fonctionnaires de 500 000 sur un quinquennat, sur 5 ans, quand Alain Juppé, lui, propose moitié moins, 250
000. Non, 300 000, je crois.
300, jusqu'à 300 000.
Bon, enfin, mais c'est pas là-dessus que je voulais revenir. Je veux dire, quand vous apercevez, en fin de compte, d'accord, c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'on va avoir un débat sur quelque chose qui n'est pas un élément aussi fondamental qu'on le croit. Moi, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué, et ça n'a rien à voir avec l'économie. Je pense que Juppé, hier, aurait dû se retirer. Pourquoi ? Vous avez... Ah non, mais attendez,
non, mais je vous
ça va avoir son importance. Pourquoi ? Vous avez grosso modo un socle de 60% après le ralliement de Sarkozy à Fillon, et de l'autre un socle de 30%. Il peut y avoir un miracle. En effet, Juppé peut d'un seul coup gagner. Mais moi, ce que je crains pour la droite, elle, c'est que jusqu'à maintenant, ce débat des primaires n'a causé aucun dégât. Elle n'a pas fourni d'arguments et d'aliments à la gauche. Or, c'est cette semaine qu'il va y avoir dans ce combat tous les arguments que pourra utiliser la gauche, car si jamais Fillon gagne et que Juppé perd, ce que les chiffres normalement nous donneraient ça... Et évidemment, la gauche pourra utiliser tous ces arguments et les 500 000 fonctionnaires et votre programme de droite et votre programme
de gauche. Ça a déjà commencé, puisque en fin d'après-midi, Manuel Valls a expliqué que la France n'a pas besoin de solutions ultralibérales et conservatrices. Et quand on
pour s'appuyer sur Juppé.
Quand on sort 500 000 fonctionnaires, ça veut dire que ça sera moins de policiers, moins de gendarmes, moins d'enseignants, etc. Voilà ce que disait Valls.
Donc, moi, personnellement, je regrette. Hier, on a eu un contre-emploi. On a eu un Sarkozy finissant avec un beau discours, il faut reconnaître, avec de la gueule, et montrant qu'il faisait attention à son camp, et j'aurais espéré que Juppé ait la même attitude, et que son camp puisse partir sans se déchirer pendant une semaine.
On va revenir sur, évidemment, ce qui nous intéresse, sur BFM Business, sur l'économie, est-ce qu'il y a deux visions, vraiment, mais puisqu'on a abordé un tout petit peu la sphère politique, et que Bruno Jean-Bart est là, est-ce que le cas de figure s'est présenté à un moment dans la soirée que Alain Juppé jette l'éponge compte tenu de l'ampleur du score de Fillon ?
Je crois, oui. Si j'ai bien compris, même c'est en découvrant une petite chose dans le règlement de la primaire qu'il n'avait pas anticipé, à savoir que si le second se retire, le troisième est qualifié.
Ah !
Que le débat a été tranché.
D'accord.
C'est-à-dire que en fait, personne ne se souvenait qu'il était prévu que si Juppé se retirait.
Ah, c'est bien de.
Ah oui.
C'est bon. Alors, vous avez la réponse comme ça.
Ça serait peut-être retiré aussi, mais je crois que moi, je ne crois pas à ce risque parce que c'est quelque chose.
Le risque quoi que Alain Juppé.
De déchirement.
De déchirement, d'accord.
Évidemment, le débat, il va être un petit peu sévère jeudi soir. C'est normal, c'est la vie politique, mais. Ça avait été le cas en 2011 entre Martine Aubry et François Hollande. On avait dit, oh là, ça va être terrible la primaire de gauche, le débat entre deux tours. Finalement, François Hollande, il a gagné la présidentielle derrière. On avait dit que ça allait être terrible la primaire de droite avant le premier tour.
En même temps, on a vu ce qui en est sorti aussi dans les années suivantes. Alors, Martine Aubry, quelque part, elle a planté certaines graines pour faire pousser des frondeurs.
Oui, mais si François Hollande n'a pas répondu aux faiblesses qu'avait mis en avant Martine Aubry durant la primaire, c'est de sa responsabilité politique. On peut imaginer que effectivement Alain Juppé mette en avant des choses que pourrait reprendre la gauche demain. Pour autant, il est tout à fait capable après d'y répondre pendant la campagne et d'avoir les arguments pour contrer ce type de difficulté.
Bon, on revient sur l'écho. Xavier Fontanet avec nous, professeur à HEC. Donc,
oui,
comment vous avez
retraité
Pourquoi vous avez décidé
écoutez,
de
écoutez, en fait, moi, je suis de ces entrepreneurs qui a passé sa retraite. J'aurais dû partir en Suisse ou en Belgique. Et je suis resté, bien que payant énormément d'impôts, pour faire mieux comprendre l'entreprise et la mondialisation à mes compatriotes. Alors, j'ai fait ça avec des livres. Si on faisait confiance aux entrepreneurs, pourquoi pas nous ? Et en fait, Alain Juppé a été très séduit. D'abord par le livre « Si on faisait confiance aux entrepreneurs », parce que j'avais expliqué que la confiance, c'est la clé de tout. Hein, et que tout marche quand on a la confiance, donc c'est la clé. Deuxièmement, j'avais fait un petit chapitre sur l'intérêt général en expliquant. Et Juppé m'avait dit « Xavier, vous gérez Cilor, c'est formidable, mais vous défendez les intérêts privés. » Moi, je défends l'intérêt général, c'est plus difficile. Alors, j'ai fait un petit papier en disant, mais l'intérêt privé des sileurs, on a des concurrents terribles, des Japonais, des Allemands, et donc la concurrence contrôle l'intérêt privé, elle fait convertir vers l'intérêt général. Alors, c'est ça qui a accroché Juppé, et en fait, il s'est
passionné. Qu'est-ce que vous lui avez montré?
Alors, ce qu'il a accroché, c'est le livre Pourquoi pas nous, hein, qui était une comparaison, donc c'était il y a un an qu'on a commencé. C'est la comparaison de, j'expliquais comment l'Allemagne, les Canada et la Nouvelle-Zélande avaient sur 12 ans, réformer les pays. Donc ma thèse, c'était en gros 200 milliards économisés. Alors là, il était stressé de lui, il m'a invité. Et j'ai passé des heures avec lui, quasiment en tête-à-tête avec Virginie Calmels. Et on a fait du ligne à ligne. Alors moi, je peux attester que M. Juppé s'est vachement intéressé, qu'il était comme un étudiant et qu'on a passé 2-3 journées, enfin des journées, 3 fois, des gens passionnants. Et donc c'est ça que c'est marrant. Alors après, il a repéré...
Qu'il a été Premier ministre à une époque quand même.
Oui, mais alors là, c'était... Je lui parlais cash, parce que oui, moi, je cherche absolument rien, je suis retraité, je suis très heureux, j'ai une famille formidable, je cherche pas de job, donc c'est une grande liberté. Donc j'ai pu être extrêmement cash avec lui, notamment sur les affaires de fiscalité. Et puis alors, celui qui l'intéressait, c'est l'actionnaire salarié. Donc il m'a demandé à ce moment-là de faire des notes. Je lui ai expliqué que c'était la solution du capitalisme. Et puis donc, on a créé ce lien. Donc, alors le dernier livre que j'ai écrit, en fait, c'est le coup d'après.
Que chacun s'y mette.
Voilà. En fait, je pense que des programmes, c'est pas des collections de réformes. Il faut mettre un cran au-dessus. Et il y a deux grands crans, moi, je trouve, dans cette campagne. Les programmes, c'est les mêmes. Si vous comparez un programme de gauche et un programme FN. Donc, on est dans l'épaisseur du trait. Donc, je suis d'accord en disant que 300 000, 500 000, c'est complètement l'épaisseur du trait. Et les grands sujets, ils sont deux choses. Il faut d'abord que les Français comprennent que c'est grave. Il faut surtout que les candidats expliquent bien ensemble aux Français que c'est très grave. Parce qu'on a besoin de la gravité. Et deuxièmement, attendez, la France peut re-rentrer en jeu mondial. On peut casser l'histoire de Brexit, Trump, Le Pen, c'est terrible. C'est une spirale. La France peut re-rentrer dans l'histoire en cassant cette spirale, et je crois que nos deux candidats, ils vont nous faire une belle finale comme Nadal contre Federer. Il faut qu'ils nous fassent du beau tennis, mais à la fin ils seront forcément ensemble et on peut passer dans l'histoire, on peut remettre la France dans l'histoire. C'est ça qui m'intéresse.
Arnaud Vessière, l'autre camp entre guillemets, bien sûr, le candidat d'en face au sein des Républicains. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé, fondé, présidé International SOS. Vous vivez à Londres aussi, hein, puisque vous êtes à la tête du cercle.
Non, je vis à Paris depuis 5 ans.
Vous avez des activités aussi à Londres.
C'est pour ça que vous dites souvent le groupe a des activités mondiales, comme les Sileurs.
Pourquoi Fillon? Et est-ce que vous lui avez donné des cours, comme Xavier Fontanet a donné des cours à Alain Juppé? Ce qui m'étonne toujours un peu, mais bon, pourquoi pas.
D'abord, je partage l'image du tennis, et je pense qu'on terminera après le deuxième tour dans une équipe de double. Voilà. Donc, que François Fillon et Alain Juppé, fondamentalement, sont suffisamment proches pour pouvoir travailler ensemble de façon harmonieuse après le deuxième tour. Sur la genèse, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que moi, j'ai fondé mon entreprise que j'ai ramenée en France, puisque je vis en France maintenant depuis 6 ans. Mais j'ai fondé en Grande-Bretagne un think tank qui s'appelle le Cercle Outre-Manche. Et nous avons étudié depuis une dizaine d'années les politiques économiques de la Grande-Bretagne avec les politiques pour les comparer aux politiques économiques françaises. Et incontestablement, c'est donc un autre pays, mais avec les mêmes résultats, c'est-à-dire que une politique économique qui favorise l'emploi, et comment favorise-t-on l'emploi, c'est-à-dire en donnant la liberté aux entreprises, donne le plein emploi. Alors rien n'est parfait, le système anglais est loin d'être parfait, mais il est meilleur. Et il a été meilleur sur les 10 dernières années. Le Brexit maintenant, à nous de saisir notre chance, et grâce à un programme de réforme forte qui arrivera à point nommé pour essayer de ramener une partie de ce qui était parti en Grande-Bretagne.
Oui. Marc de Citivo, justement, ce que dit Valls, il dit « La France n'a pas besoin de solutions ultralibérales et conservatrices » en tensant apparemment, en montrant du doigt le programme de François Fillon de réduire de 500 000 fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires sur 5 ans. Comment est-ce qu'on les qualifie, ces programmes d'ultralibéraux, de conservateurs, de discours thatchériens pour Fillon, je ne sais pas. On entend beaucoup et n'importe quoi.
Je crois qu'on peut les qualifier comme une remise à niveau de l'économie mondiale, c'est-à-dire faire avec 20 ans de retard ce que tous les autres pays ont fait. Je veux dire, point final. Je veux dire que c'est vrai qu'au moment, alors puisque vous citez Thatcher, au moment où Thatcher et Reagan démarrent, nous on est Mitterrand. C'est un peu un contre-pied. On en voit quand même les conséquences quand vous regardez sur la période l'évolution des économies américaines et anglaises d'un côté et françaises de l'autre. Bien.
Alors et à cet égard, l'exemple britannique est un bon exemple à suivre, comme le dit Arnaud Vessière.
Je voulais, alors, l'ennui, c'est que, en tant qu'économiste, on est obligé de dire que Quand on voit quand même, en effet, la possibilité qu'a eu la Grande-Bretagne, entre autres, d'utiliser son taux de change de manière libre, c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que si on prend les 20 dernières années, le taux de croissance de l'économie anglaise est environ, en partant de basse 100, on est à 130 contre 100. Je voudrais juste dire un petit mot à Xavier Fontaine, qui est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et presque d'amitié. Je le félicite, mais est-ce que je peux me permettre de dire que je ne pense pas qu'il soit Dieu le Père, c'est-à-dire que s'il a fallu que Dieu intervienne directement sur Saint-Paul pour qu'en tombant de son cheval, il revienne d'un seul coup, il devienne un partisan de la religion catholique, je ne suis pas sûr que, quelle que soit la force de conviction de Xavier Fontenay, ça soit suffisant pour faire d'un étatiste, tel qu'on l'a décrit, un libéral. Donc, j'ai une petite méfiance, et en fin de compte, je pense quand même que quand on atteint un certain âge, il est difficile de changer profondément. Et j'en ai toujours eu le même sentiment vis-à-vis de Juppé, c'est comme un homme qui profondément pense que si c'était lui qui fixait le prix des carottes, le marché des carottes se porterait quand même mieux.
Et boum. sérieusement, Emmanuel Le Chypre.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence philosophique justement, entre les deux.
Comment, alors, simplement, un épithète pour chacun, c'est quoi?
C'est un étatiste éclairé, un Juppé, alors que François Fillon est un vrai libéral intellectuellement, faisant partie, parce qu'il y a plusieurs familles de libéraux, des libéraux économiques, mais des libéraux conservateurs sur le plan sociétal. Et juste pour terminer, la chance qu'on a. Parce que quand on dit la France n'a pas fait les réformes que les autres ont fait il y a 20 ans, la chance qu'on a, c'est qu'on est, après avoir vécu quand même sur le dos de la consommation et de la dépense publique à crédit pendant que les autres faisaient les réformes de fond, on a la chance que le monde entier dise que c'est le moment de faire des grandes relances par l'investissement, c'est ce que va faire Monsieur Trump, c'est ce qu'on va peut-être faire en Europe, etc. Alléluia, pendant que les autres vont relancer, eux, leur croissance à coup de dépenses publiques, profitons-en, nous, pour faire les réformes que nous n'avons pas fait il y a 20 ans, pour nous remettre à niveau, parce que c'est ça l'enjeu. Honnêtement, dans tous nos amis Fillon, Juppé, il n'y en a aucun qui a une vision de ce que sera la France dans 20 ans. Mais après tout, si d'ici 5 ans, ils ont remis la France à niveau pour lui supprimer quelques-uns des gros boulets qu'elle traîne au pied par rapport à ses principaux concurrents, bah après tout, ce sera déjà pas si mal.
Bruno Jean-Barre, le terme, l'épithète libérale, c'est tendance ou c'est repoussoir dans le contexte actuel, en fin 2016, début 2017, au moment du scrutin?
Ça dépend quel cercle on regarde. Économiquement libéral, si sur le cercle de l'électorat de droite aujourd'hui, c'est très tendance. Parce que en fait, quand vous regardez, la droite s'est en rétrécie. Sa partie la plus populaire et souverainiste est en partie au Front National. Aujourd'hui, elle est reconcentrée sur un socle beaucoup plus libéral économiquement, idéologiquement, au niveau de ses électeurs. Si on élargit au niveau français, c'est probablement un peu plus complexe et un peu plus compliqué. Et notamment, effectivement, on voit bien que de deux côtés, à gauche et à droite, vous avez à l'extrême droite, à l'extrême gauche, des gens qui sont très réfractaires à tout cela. Donc, il est évident que ça peut être un souci dans la campagne. À mon avis, c'est moins un souci dans la campagne parce que il y a des éléments structurels qui seront très favorables aux candidats de la droite désignés dimanche prochain, en 2017. Ça va être un souci une fois élu pour appliquer son programme, surtout vu les programmes quand même assez ambitieux par rapport, je dirais, à ce qu'a présenté la droite ces dernières années que nous proposent les deux candidats.
Programme ambitieux, on a l'impression quand même c'est Fillon qui avait donné quelque part le là, parce que là on parle de Fillon, de Juppé, mais il y en avait quand même quelques-uns jusqu'à hier soir qui étaient donc en lice. Hein. On a vu donc François Fillon qui avait présenté dès juin 2014 un projet de rupture. Les autres avaient suivi. Et quelque part, c'est lui qui donne un petit peu qui est à la baguette un petit peu, Arnaud Vessier.
Tout à fait. Je pense que c'est un programme. Le programme de François Fillon est un programme qui a été bâti depuis 3 ans, avec des équipes très nombreuses, donc pas une ou deux personnes, mais des équipes très nombreuses, avec cette idée que sur chaque sujet, 30 groupes de travail, sur chaque sujet, il y ait un élu et un représentant de la société civile, de façon à avoir une vision différente de ce qu'on avait connu jusque-là. Un travail de fond, chaque groupe de travail a duré de 3 à 9 mois, avec ces deux principaux qui animaient. Et la première plateforme, vous l'avez dit, est sortie en juin 2014 sur la compétitivité. Et je pense que c'est ce qui a marqué le là. Et clairement, l'ensemble des candidats, c'est ont bâti leur plateforme à partir de celle-ci.
Qu'est-ce qui, franchement, Xavier Fontanet, qu'est-ce qui vous oppose véritablement, frontalement, à Renaud Vaissier qui représente le camp Fillon, vous qui soutenez Alain Juppé?
J'enlèverai le mot camp, si vous voulez. Je pense qu'on est tout à fait.
Oui, bien sûr.
On est tout à fait. D'ailleurs, je connais très très bien pas mal de gens qui soutiennent Fillon. Nous, on présente l'entreprise. Au fond, moi, je suis profondément heureux parce que je pense que les entrepreneurs ont fait un travail fantastique depuis 3 ans auprès des hommes politiques. Chacun y a été son chemin. Moi, c'était du hasard total, puisque les rencontres, c'est du hasard. Je crois qu'on a fait le même chemin. Et je suis très confiant pour mon pays. Moi, j'ai voulu rester ici pour porter cette bonne parole à cause de mes enfants et de mes petits-enfants, vous voyez. Et moi, je suis profondément serein. Alors maintenant, mon travail, ça va être de pacifier tout ça, de s'assurer que les gens vont ensemble. Effectivement, si on commence à parler des clans, alors j'ai peur des médias.
Alors donc,
il faut les mettre. Alors après, il y a des différences. Je veux dire quand même
deux candidats nécessairement.
La différence, je vais vous dire où elle est.
Distinguer.
La différence, je vais vous dire, c'est que je vois qu'Alain Juppé, je pense que Bordeaux et le Canada lui ont fait beaucoup de bien, si je peux me permettre, avec tout le respect que je lui dois. Je pense qu'il a découvert vraiment l'entreprise. Grâce aux Bordelais, grâce aux PME bordelaises. Alors par contre, lui, sa réflexion, il était parti de l'État régalien. C'est-à-dire qu'il a dit, pour permettre aux entreprises de bien fonctionner, mon boulot, ça va être de retravailler sur la justice, la police, évidemment l'éducation, évidemment les affaires étrangères. Donc il a commencé à prendre le boulot par l'État régalien qu'il connaît bien. Et il s'est très très vite dit, mais quand on discute, il dit, mais je sais très bien que l'État est incapable de gérer des boîtes publiques. Et donc je pense qu'il a une conception légèrement différente, c'est qu'il a passé plus de temps sur le régalien en disant, les Français sont dégourdis, avec une bonne fiscalité, tout ça marchera. C'est peut-être là qu'il y a une petite différence, mais c'est complémentaire.
Mais Emmanuel Chip, sur le régalien, regardons, ils ont tous comme envie de réduire la sphère de l'État. Alors réduire le nombre de fonctionnaires, on a vu donc il y a un gap de 1 à 2, hein, 250 000, 300 000 pour l'un, le Juppé, et Fillon, c'est 500 000. Baisser les dépenses de 100 milliards d'euros pour François Fillon, 85-90 pour Alain Juppé. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on connaît véritablement le périmètre de l'État? Jusqu'où va-t-il? Est-ce qu'on l'a écrit, ça, Emmanuel Le Chip? Est-ce qu'ils l'ont écrit?
Oui, bien sûr, c'est dans les programmes. Oui. C'est vrai que si on prend, par exemple, les effectifs de la fonction publique, on voit bien que, allez, l'un comme l'autre tape notamment dans les collectivités locales. Alors, ça pose objectivement un problème. C'est qu'aujourd'hui, quelle est la capacité d'influence et de contrainte de l'État sur l'emploi dans les collectivités locales? Il n'y en a pas. Donc, à part leur couper le robinet
des dotations,
de l'argent, etc. Alors, François Fillon, lui, il refait une réforme territoriale.
Il y a une réforme territoriale. Alors, donc, à partir de la réforme territoriale...
Voilà, alors que Alain Juppé, lui...
C'est quoi la réforme territoriale à la sauce Fillon, Arnaud Vaissier?
Qui est trop forte.
On revient sur les régions, on revient sur les départements.
Non. Quoi? C'est de redonner la possibilité de contrôler l'emploi local. Moi, je crois que la position de François Fillon était un petit peu différente. Lui, la sienne, c'est de dire ce pays a besoin de réformes au niveau régalien, en particulier au niveau de l'éducation et au niveau de la sécurité, mais tout est possible si l'économie se porte bien. C'est avec une économie qui se porte bien qu'on dégage les marges de manœuvre qui vont permettre de faire les réformes fondamentales au niveau régalien. Et donc, effectivement, son raisonnement est démarré à partir de l'économie, et il le redit chaque fois, il dit tout est important, il y a pas, rien n'est plus important que l'autre, mais le fait que l'économie se porte bien est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire aux autres réformes.
Oui. Sauf que...
C'est la poule et l'œuf. Moi, j'ai expliqué à Alain Juppé, de mon point de vue, c'est le problème de la confiance. Je vais conseiller de lire, par exemple, Miracle en économie. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres. Le dernier livre qu'a écrit Perfit, il s'est intéressé à comprendre ce qu'est le miracle de la confiance. C'est la mécanique qui fait que les pays se mettent en marche. Alors, ça part du régalien qui met de l'ordre et puis le business mal marche, ou le business marche très bien. Tout ça, c'est un peu la poule et l'œuf. Je crois que les deux doivent aller ensemble. Ils sont assez complémentaires, les programmes. On a besoin, si vous voulez, pour bien travailler, d'avoir, notamment, il y a le vrai sujet maintenant qui est le monde, si vous voulez, avec ce qu'on voit avec Poutine. Et puis Trump, il faut évidemment repartir avec la défense européenne. Donc ça veut dire qu'il faut se pencher sur la stratégie de la défense. Donc il y a une grosse réflexion du
Xavier. La confiance, c'est aussi du coup un récit, une histoire dans laquelle on va vous embarquer.
Moi, je lui ai dit,
Or pour le moment, il y en a aucun des deux.
Mais ça faut les aider. C'est pour ça.
Mais pour le moment, il y en a aucun des deux qui nous raconte, qui nous porte.
C'est les prochains bouquins qu'on va écrire. Je pense que le grand truc, les Français, ils aiment bien les grands trucs. Je pense que les Français ils aiment bien quand ils rentrent dans l'histoire du monde. Et je dis qu'on a un truc fabuleux à jouer, c'est casser la logique Brexit-Trump. Et je pense que Fillon et Juppé, tous les deux, sont capables de prendre le pouvoir et avoir un rôle historique. Et là, les Français, eh ben, ils vont se retrouver là-dedans, ils vont être prêts à faire des efforts. Je crois qu'il faut que dans les bagarres, enfin les discussions qu'ils ont entre eux, il faut qu'ils comprennent que la situation est grave, parce qu'on a besoin que tous les Français comprennent que c'est grave pour que chacun fasse les efforts nécessaires. C'est le sens de mon bouquin, que chacun s'y mette.
Bruno Jean-Bart,
écrit pour eux finalement.
Bruno Jean-Bart, opinion, ouais, deux visions différentes de l'économie, deux histoires différentes à raconter entre Fillon et Juppé.
Je sais pas s'il y a deux histoires différentes à raconter. Les deux sont confrontés au même problème. Effectivement, comme le dit Emmanuel, c'est que il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés et il n'y a pas forcément quelque chose d'extrêmement vendeur auprès des Français pour le moment de ce que pourrait rapporter ces efforts ou de ce que ça changerait pour l'avenir du pays. Et donc, c'est, à mon avis, ils sont confrontés à la même difficulté. On est face à, et la question de la confiance, elle est majeure, mais la question de la confiance, elle rend beaucoup plus difficile, comme elle est absolument pour l'instant détruite en France, cette confiance, elle rend beaucoup plus difficile l'acceptation des réformes. Ouais. C'est vrai que quand vous êtes dans un pays aussi craintif par rapport à l'avenir que la France, les gens se disent qu'il vaut mieux s'accrocher au pas grand chose qui leur reste plutôt que de prendre le risque d'aller vers autre chose. Mais là, et donc, que la question pour eux, c'est de déclencher ça.
C'est un peu l'idée de François Fillon, c'est de dire que le pays est beaucoup plus prêt à la réforme que ne l'ont pensé les politiques jusqu'à ce jour ou que ne le disent les médias. Je pense que il y a un sentiment, une envie de réforme dans le pays, parce que les gens en France ont envie de réussir dans tous les domaines, ont envie que leurs enfants réussissent et que leurs enfants restent en France, qu'on n'ait pas un tiers des promotions qui partent à l'étranger. Et pour réussir, il faut des réformes. Donc je crois que il y a aussi, et le score de François Fillon à 44% sur une très forte participation montre que quand on propose des réformes, il y a quand même une certaine adhésion.
Marc de Citivo, et puis on revient dans un instant, verra justement la crédibilité de ces programmes.
Il se peut que le score de François Fillon soit aussi dû à autre chose. Il s'est fait que BFM a eu la bonne idée vendredi de passer successivement un assez long passage, c'est-à-dire 20 minutes, des trois meetings qui se tenaient au même moment. Il y avait celui de Sarkozy, celui de Fillon et celui...
De BFM TV, ça.
Ouais, de BFM TV et celui de Juppé. Alors, laissons tomber celui de Sarkozy, qui était un truc à la Sarkozy classique. Et puis, comparons... Et il y avait une différence quand même très profonde. Celui de Juppé a été très discours de technocrate. C'est-à-dire qu'il a parlé, une fois de plus, de son programme, de ce qu'il voudrait, c'est très bien. Mais il se fait que porté peut-être par la grâce de ses réussites récentes, Fillon a tenu un vrai beau discours émouvant. Il a parlé de la France, il a parlé, j'allais dire, un peu à la De Gaulle. Et c'est vrai que ça avait vraiment du souffle. C'était vraiment, il y avait un côté émouvant. Eh bien, il se peut que peut-être ces fameux 10 points de plus soient dus aussi à l'espèce de souffle que n'ont pas eu les autres. L'un, on le connaît, avec ses défauts, bon, on n'en parlons plus, on n'est pas là pour tirer sur les cadavres. Juppé n'est jamais arrivé à donner cette espèce de souffle un peu enthousiasmant que Fillon a réussi à donner.
L'impact, la faisabilité des programmes économiques de Fillon, de Juppé, on continue dans un instant avec les décodeurs de l'écho, à tout de suite sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors, Juppé, Fillon, y a-t-il vraiment deux visions différentes de l'économie, deux recettes différentes? On a parlé tout à l'heure, de la sphère de l'État, du nombre de fonctionnaires. On aurait pu parler aussi de la réforme des retraites, hein, réforme à 65 ans, donc en 2022. Et puis, la baisse des impôts. Alors ça, ils sont tous les deux d'accord pour... baisser les impôts, stabiliser la fiscalité pendant 5 ans, dit Fillon, notamment sur les sociétés. 50 milliards d'euros de pression fiscale en moins. Alain Juppé, lui aussi, met clairement le curseur sur les entreprises. Baisser l'impôt sur les sociétés de 33 à 30% et réduire de 10 milliards d'euros les cotisations familiales payées par les employeurs. Hausse de la TVA. Alors, de 2 points de TVA pour François Fillon, finalement, 1 point pour Alain Juppé. Un petit point pour Juppé, qui pourrait rapporter quelques 6 milliards d'euros, histoire de financer toutes les allègements de charges pour les entreprises. L'entreprise, justement, flexibilité sur le marché du travail. Alors, pour François Fillon, privilégier des accords au sein de l'entreprise et pouvoir travailler jusqu'au maximum européen, c'est-à-dire 48 heures. Hein. François Fillon veut mettre en sommeil un peu les seuils sociaux, réduire le code du travail à 200 pages. Du côté d'Alain Juppé, lui, on reste à 39 heures. 39 heures payées combien pour Juppé, Emmanuel Le Chypre ?
Ah bah 39 heures payées 39.
39 payées 39, oui. D'accord.
Ah, c'est pas 39 heures payées 35. Hein.
Je posais la question. Oh. Voilà, il y avait quelques, quelques doutes dans ma tête. Pardon. Ils ont évolué quand même, ils ont peaufiné quand même. Parce que c'est vrai que, prenons l'histoire de la TVA. Au départ, Fillon proposait 3 points de hausse. Faire passer de 20 à 23 le taux normal. Finalement, il ne s'en est tenu qu'à 2 points de hausse. Pour quelle raison ? C'était trop fort, too much ?
Parce que Gilles Carrez l'a convaincu que c'était quand même un choc sur le pouvoir d'achat qui était... sans doute trop fort à supporter, mais sans doute plus pour des raisons électorales que pour des raisons purement économiques.
Ah ouais, Alain Juppé, lui, je disais, il promet un point seulement de hausse du taux normal. Je disais cette anecdote sur le site de BFM Business aujourd'hui. On a merdé sur le sujet. Voilà, c'est François Fillon qui, le mois dernier, sur RMC, avait donc prononcé cette phrase. Il faisait référence au fait que lorsque Nicolas Sarkozy était président et lui, donc, Premier ministre, ils avaient tardé à instaurer cette TVA dite sociale pour la mettre seulement en fin de quinquennat.
Et comme François Hollande a merdé en la supprimant.
En la supprimant, il l'a reconnu lui-même aussi, François Hollande. C'est risqué ou pas, Bruno Jambard, d'accroître comme ça le nombre de points de TVA, que ce soit de 1, de 2, évidemment, a fortiori de 3?
C'est un impôt qui est très impopulaire et c'est vrai que ce sera un affrontement gauche-droite très fort là-dessus parce que il y a une symbolique qui est importante sur l'impôt. Est-ce que c'est risqué? Je ne crois pas forcément. Enfin, tout dépend de la capacité de l'ensemble du projet à avoir des résultats. Je crois que la vraie question sur les propositions des deux candidats, c'est dans quelle mesure ils arrivent à enclencher le sentiment au bout de quelque temps que ça produit des effets et que ça permet de relancer le pays. Si c'est très long, ça peut être dévastateur. Si en revanche il y a des signes qui arrivent, ça peut être évidemment impopulaire au début, mais après tout, ça peut bénéficier assez largement.
Les entreprises ont bien répercuté justement ces hausses de TVA, Emmanuel Le Chypre.
Ah, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet. Ça dépend des pays, ça dépend de la conjoncture. En moyenne, on constate que la baisse de TVA est répercutée à moitié seulement. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que il y en a une moitié qui profite aux entreprises et l'autre moitié qui... Enfin, quand on la baisse, une moitié qui profite aux entreprises, une moitié qui profite aux consommateurs et même chose quand on la monte, mais ça dépend de l'état du marché. Le problème de la France, c'est que c'est un pays, rappelons-le, où l'insuffisance de concurrence est criant. Hein, il faut rappeler que le problème de l'économie française, c'est pas l'hyperconcurrence qui vient de l'extérieur, c'est l'insuffisance de concurrence sur le marché intérieur qui nous coûte quand même 500 000 à 1 million d'emplois globalement. Donc moi, ce que je crains, c'est qu'effectivement, on ait quand même des secteurs où les entreprises profitent un peu de leur pouvoir de marché pour les répercuter sur les consommateurs.
L'économiste Marc de Citivo.
Oui, ce qu'a dit Bruno Jambard, si les résultats ne sont pas rapides, alors bien évidemment, ils ne le seront pas.
Ah bah non.
Ça, il faut en être
même conscient. Au début, ça va être dur.
Oui, il faut en être conscient. Et d'ailleurs, même dans les modèles dont on parle, on voit que l'amélioration au bout de 5 ans du taux de chômage n'est pas colossale. C'est normal, puisque pour remettre en ordre les finances publiques, vous êtes obligé d'un côté de réduire à la fois, enfin de réduire ce qui allait à la sphère publique. Certes, il y a un gain. Mais le gain, ce n'est pas fort, forcément, dès le début. Puisqu'on parlait de l'exemple de Mme Thatcher a été sauvée par une chose extrêmement simple, c'est la guerre. Si elle n'avait pas gagné la guerre des Malouines, elle n'aurait pas été réélue.
80.
Et donc, on a vu les résultats foudroyants de sa politique qu'au bout de 10 ans. Mais au bout de 5 ans, on les voyait toujours pas. Donc ça.
C'est allé plus vite avec Cameron.
Oui, mais Cameron, il a pris la situation, il faut reconnaître que Mme Thatcher a pris la situation dans une situation dramatique de l'Angleterre. La France n'est pas dans la situation où était l'Angleterre.
C'est
pour ça que
c'est plus
comparable. Mais néanmoins, nous savons qu'en effet, ça prend du temps. Et j'en tire la conclusion, puisque ça prend du temps, commençons tout de suite. Et
donc, juste pour
j'ai été un farouche partisan des ordonnances de Fillon, pour pouvoir commencer tout de suite.
Dans le modèle qu'on a utilisé, concrètement, le programme Fillon, sur les deux premières années, ça vous coûte au moins un point de PIB et demi.
parce que les mesures dures que vous prenez tout de suite, après les effets positifs de la réforme du marché du travail, etc., ne viennent qu'au bout d'un certain temps. Donc il faudra bien que les Français comprennent, et là il faudra faire un effort de pédagogie terrible,
ça va être terrible,
que ça n'est pas dès le lendemain de l'élection que la situation va s'améliorer, que l'emploi va repartir, etc.
Ça, vous avez parlé de Juppé et chez Fillon, c'est combien?
Non, chez Fillon. Chez Fillon, c'est presque 2 points de PIB. Chez Juppé, c'est beaucoup moins. Ouais. Et c'est là, d'ailleurs, une grande partie de la différence des programmes qui sont philosophiquement pas si éloignés que ça, on l'a dit. C'est que ils sont bâtis en fonction de l'estimation que chacun fait de la capacité du corps social français à accepter la réforme. Et clairement, Alain Juppé préfère jouer sur plusieurs leviers pas trop forts pour essayer de rendre plus acceptables les réformes. Et donc, moi, il me semble que la trajectoire de réforme proposée par Alain Juppé est peut-être moins spectaculaire, mais qu'elle a plus de chances de réussir que la trajectoire de François Fillon, qui est plus violente, plus audacieuse, qui ressemble plus à une thérapie de choc, qui, effectivement, au bout de 5 ans, produit des résultats peut-être meilleurs, mais qui pose quand même des gros problèmes en termes d'acceptabilité au début.
Alors, un mot, Bruno Jambard, et on redonnera la parole aux deux soutiens, donc des deux candidats de dimanche prochain. Donc, Bruno.
Effectivement, c'est parce que, justement, ça risque de mettre du temps à produire des effets que la question du calendrier de mise en œuvre va être décisive. Parce que ça veut dire que probablement, un président qui appliquerait ce programme va très vite être confronté à des difficultés dans l'opinion, très vite donc confronté à des réticences, des barrages, ouais, des résistances. Ouais. Et donc, il faut être capable d'avoir mis en œuvre beaucoup de choses très vite pour ne pas être bloqué dans son projet et ne pas se retrouver finalement un peu au milieu du guet où on aurait commencé à prendre des mesures très difficiles, mais pas suffisantes
donc,
pour pouvoir avoir des
effets. 100 jours, des ordonnances.
Je pense que c'est l'été 2017, honnêtement. C'est-à-dire, il faut profiter un peu. C'est un peu dur, ce que je veux dire, mais que
peur,
du fait que les gens vont partir en vacances, que le président est légitime parce qu'il vient d'être élu, et puis voilà, pour faire le travail. Hein.
Bon, alors, Xavier Fontanet, oui. Le juppéiste.
Oui. Alors quand justement j'ai discuté avec un Juppé, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est l'expérience des pays étrangers. Puisque moi j'ai vécu la Nouvelle-Zélande il y a une vingtaine d'années, le Canada il y a une vingtaine d'années, l'Allemagne il y a 10 ans. Bon, puis j'ai vu comment c'est dans les rues. Hein, bon. Et en fait, je lui ai dit que le plus important, à mon avis, c'est que les Français comprennent que la situation financière est grave. Hein. Là, les économistes qui disent on peut s'endetter, tout ça, c'est vraiment des criminels. Hein. Parce qu'on a de la dette, il faudra repayer la dette. Donc il faut donner une sensibilité que c'est très très grave. Et c'est ce qu'ont très bien réussi, par exemple, les Allemands. Et il y a une idée que Juppé a beaucoup tout, quand j'ai présenté, c'est la notion de solidarité exigeante. Ce qu'a expliqué Schröder, c'est que quand la situation de l'Allemagne était très mauvaise, elle était bien moins mauvaise qu'elle est aujourd'hui en France. Hein, bon. Et il disait par exemple, quand l'État est en faillite, il est du devoir de chaque Allemand de pas de rechercher systématiquement les aides. Vous voyez ? Il a dit, il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage, même bien payé à la maison. Et les médias ont considéré qu'il fallait relayer ces messages. Vous voyez ? Et il y a eu les médias allemands, dans cette période, ont été extrêmement consensuels. Ils ont appelé ça, je ne sais plus combien, il y avait un mot absolument, l'accompagnement constructif. Ils ont considéré que l'Allemagne était en danger. Maintenant, les gars, ça suffit. On arrête de dire, c'est grave. Et donc, je pense qu'il y a aussi les médias ont un rôle. C'est pour ça que tout le monde s'y met, hein, vous verrez. Et on a un rôle très important à jouer. Et une fois que les gens ont compris que la situation est grave, à ce moment-là, moi, je vous sais, on a vécu, sûrement, on
qu'est-ce
a remonté
dire,
des boîtes. Ah ben, il faut commencer les finances de l'État. Il faut expliquer qu'on ne peut pas s'endetter, que la dette va devenir très grave, qu'on ne va pas s'en tirer comme ça. Et je pense qu'il faut être crédible et on a besoin des médias pour nous aider. Et puis que les économistes qui expliquent pas de problème, on s'endette, il ne faut peut-être pas leur donner le micro. Excusez-moi, je pense que ces gars-là font un dégât épouvantable.
Et on parlera de l'impact sur
on en parlera. Je vous donne ces fontanés qui partent.
Avec Marc de Citeau. Arnaud Vessier,
je pense que clairement,
le filloniste, lui.
Dans ce domaine, François Fillon a de l'antériorité avec son fameux « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Je crois qu'il a effectivement cette conviction que la situation économique française est grave. Il faut aussi ne pas oublier que depuis maintenant 10 ans, depuis que l'euro a été créé, la compétitivité française dans la zone euro ne cesse de se dégrader. Et aujourd'hui, la taille de notre industrie rétrécit en permanence. C'est intolérable si la France veut rester une grande économie. Donc, je partage tout à fait l'analyse de Xavier Fontanet, c'est-à-dire que la situation, elle n'est pas bonne. Donc il faut des réformes importantes parce qu'on passe pas d'une situation médiocre si on est de bonne humeur ou mauvaise si on est de mauvaise humeur à une bonne situation facilement. Et il faut donc qu'il y ait ce diagnostic. Et le diagnostic est que aujourd'hui, le problème numéro un, il est au niveau des entreprises qui sont insuffisamment compétitives. D'où l'idée d'aller donner 40 milliards d'économies de charges pour la compétitivité des entreprises et 10 milliards pour les ménages. Donc une réduction de 50 milliards. C'est effectivement important, mais c'est à la hauteur du défi parce que aujourd'hui, la taille de notre industrie diminue.
Et ces tendances aussi, Marc de Citivo, on voit donc ces programmes pour réduire la sphère de l'État. On va voir ce qui va se passer dans 10 jours en Italie. Référendum de Matteo Renzi. On a eu la question aujourd'hui qui va être posée aux Italiens. Approuvez-vous la fin du bicaméralisme? C'est-à-dire ils vont supprimer une chambre. La baisse du nombre de parlementaires, la suppression de l'équivalent du Conseil économique et social environnemental là-bas en Italie. C'est une vague, un mouvement général en Europe que les populations comprennent?
Non, mais il est clair que si Renzi perd son référendum, ce qui n'est une probabilité non négligeable, là, vous avez quand même une espèce de petite bombe atomique à l'intérieur de l'Union européenne, parce que, quels que soient les efforts de la BCE, arriver à maintenir des taux italiens, l'explosion des taux italiens, et qui dit explosion des taux italiens, fait poser immédiatement la question sur l'explosion potentielle de l'euro, et donc de l'ensemble des taux. Ce qui fait qu'on risque d'avoir nos deux candidats, s'ils ont à gouverner, risquent d'avoir une situation contradictoire. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure le Chip. C'est-à-dire qu'en effet, la relance aussi bien anglaise qu'américaine va donner un environnement porteur d'un côté, mais quand on a une dette qui est égale à 100% du PIB, je vous rappelle qu'un point, c'est un point de déficit, et deux points, c'est deux points de déficit. Donc nous pouvons avoir un environnement économique mondial qui peut être bien, et cette explosion due à notre dette, ce qui est dramatique. Je voudrais juste en finir sur un. Rappelons-nous que si on s'est permis de faire n'importe quoi et que des... Je cherchais un mot poli, j'arrive pas... Et que des conneries pendant 30 ans, c'est tout simplement parce que les taux ont baissé continuellement. Ce qui fait que vous avez triplé votre dette et le coût de la dette a baissé.
Pour juste compléter notre scénario d'environnement idéal, on a... Et pour boucler avec ce que disait Xavier, c'est que là, les taux d'intérêt commencent à remonter.
Voilà.
Donc, ce côté urgence de dire, attendez les gars, les taux d'intérêt commencent à remonter, on n'a plus moyens. Alors que dans le même temps, pour un an ou deux, on bénéficiera sans doute de la tolérance de Bruxelles, par exemple, qui
évidemment
monte plus à commandant. Globalement, l'environnement international, financier, pour ce genre de réforme, il est presque idéal, j'ai envie de dire.
Juste un mot, vous avez planché aussi avec votre observatoire BFM Business, on a parlé tout à l'heure de la croissance,
quid
du chômage, quid des déficits, juste un mot, de l'un et de l'autre, de Juppé.
Grosso modo, l'un comme l'autre, au bout de 5 ans, vous ont redressé les comptes publics de 5 points de PIB à peu près. Ouais. Donc l'un comme l'autre supprime les déficits, l'un comme l'autre réduisent le chômage. Presque 2 points de PIB, presque n'importe quoi, presque 2 points de taux de chômage en moins pour François Fillon, autour de 1,5 pour Alain Juppé.
Bruno Jambard, ça sera le mot de la fin. On verra évidemment comment est-ce qu'ils vont mettre en application leur programme. Est-ce qu'après, en effet, une fois l'élection, s'ils sont l'un et l'autre est élu, évidemment, ils amenderont plus ou moins leur programme. Deux visions de l'économie différentes, peut-être pas forcément, d'après ce qu'on a compris en vous écoutant. Mais deux visions différentes sur la société. Juppé, ce soir, tacle la vision traditionnaliste de François Fillon sur la société. Ça va être ça le clivage entre les deux, justement, entre celui qui est soutenu par les anti-mariages gays et l'autre.
C'est évident que c'est sur les questions de société que les différences sont les plus fortes. Ouais. Et c'est vrai que le terme de libéral-conservateur convient tout à fait à François Fillon. Je suis pas sûr que ce soit la bonne tactique pour Alain Juppé, parce que je crois que la droite actuellement est libérale conservatrice, et donc l'électorat
de la droite,
oui, mais
et du centre.
Oui, mais sur les questions de société, la société française est conservatrice, honnêtement. Et comme en plus Fillon ne va pas très loin, par exemple sur le mariage, il ne supprime pas le mariage pour tous. Il ne va pas non plus extrêmement loin. Je pense qu'il est plus en phase avec la société française qu'Alain Juppé.
Merci à tous les cinq. L'économiste Marc de Citivo, le fondateur des Cahiers Verts de l'économie. Il y avait les deux partisans, chacun. Arnaud Vessier, chef d'entreprise à la tête d'International SOS. très proche de François Fillon, Xavier Fontanet, qui vous propose son dernier opus, Que chacun s'y mette. Voilà, il soutient Alain Juppé. Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionwell, Institut de sondage et d'opinion, et puis Emmanuel Le Chypre.
Deux futurs ministres, peut-être, enfin, ouais. Au moins un futur ministre.
Et essaie d'être au mieux avec eux. Moi, je le connais par cœur, évidemment, ils viennent depuis des années dans les décodeurs de l'écho. Emmanuel Le Chypre, c'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.